Voilà, histoire d'archives avec Jean-Christophe Labadie, directeur des archives départementales, aujourd'hui accompagné de la directrice adjointe, Marie Brunel Marchetti. Voilà.
Bonjour. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Et heureux toujours d'être présent hein, pour évoquer donc des questions d'archives, des questions d'histoire, des questions de notre action culturelle, de notre activité en cette fin d'année, hein, puisqu'on rentre dans le dernier trimestre et on est déjà en train de préparer la prochaine saison, hein, donc l'année 2026. Voilà. Mais on a encore un programme très chargé en 2025, hein, donc ce n'est pas terminé. Des conférences et une grande exposition, notre grande exposition, mais là je laisserai Madame Brunel évoquer ce sujet puisque c'est elle qui en est le maître d'œuvre. Voilà. Donc un mot sur les conférences. On en a eu une très très belle la semaine dernière parce qu'en fait, alors je vais sortir un peu du contexte précis de cette conférence. On a la chance en fait d'avoir des étudiants maintenant, donc des jeunes chercheurs qui viennent aux archives départementales, travailler sur nos archives. Alors, on s'interroge d'ailleurs pour quelles raisons viennent-ils maintenant depuis les dernières années. Sans doute aussi parce que les centres d'archives, les grands centres d'archives urbains ont été largement labourés par les chercheurs et que maintenant, on revient dans des services qui ont été un peu plus négligés, on va dire, par la recherche. Je pense qu'il y a aussi des raisons liées à des évolutions dans le domaine de la recherche, en particulier l'intérêt qu'on porte aujourd'hui aux espaces ruraux. Je pense qu'il y a aussi ce facteur qui joue. Et on a eu une très très belle conférence donc jeudi dernier, qui a été prononcée par Clément Carnielli. Alors Clément Carnielli, il est aujourd'hui maître de conférence à l'université Lyon 2. En histoire médiévale, parce qu'il y a aussi un autre facteur qui est intéressant, c'est que ce sont des chercheurs qui se penchent sur des périodes qui sont un peu négligées par la recherche, par les érudits, en l'occurrence le Moyen-Âge. Quand on regarde nos programmes de conférences, c'est beaucoup évidemment l'histoire contemporaine, 19e, 20e siècle. C'était le cas d'ailleurs de la précédente conférence sur le groupement des travailleurs étrangers d'Aimé, qui concerne donc la Deuxième Guerre mondiale. Donc là cette fois-ci, on a quelque chose d'un peu plus, inédit, hein, pour dire les choses clairement, avec quelque chose quand même qui est, c'était très frappant. Donc il y avait, je crois, 66 personnes qui étaient venues assister à la conférence. C'était très frappant parce que il nous parlait du 14e et du 15e siècle, hein, il nous parlait donc de l'environnement des communautés provençales et en particulier de la Haute-Provence, et on avait quand même l'impression qu'il nous parlait d'aujourd'hui, quoi. C'était assez curieux. En fait, les problématiques qu'il évoquait, donc les sujets qu'il évoquait, les questions qu'il évoquait pour cette période, finalement, on les retrouvait d'une certaine manière. Enfin, ça, vous voyez, il y avait une résonance avec notre monde contemporain. Pour donner plein d'exemples, hein, mais il avait commencé avec une carte, une très belle carte pour rappeler que les cartes ne sont que la représentation de ce qu'on souhaite montrer, etc. Vous voyez, donc en fait, il y avait quelque chose de l'ordre de la critique, vous voyez, donc de la capacité à finalement regarder un objet, donc en l'occurrence un dessin, une carte. En se disant qu'au fond, ce n'est pas une représentation objective de quelque chose, vous voyez, mais c'est quelque chose qui a une raison d'être en soi, qui ne raconte pas forcément ce qu'on souhaiterait nous, ce qu'elle raconte, et on peut tout à fait transposer hein, cette façon de voir les choses à notre époque contemporaine. Après, il racontait aussi toutes les filouteries des paysans par rapport à leur seigneur. Il nous montrait aussi que avant donc la guerre de Cent Ans et la grande peste de 1348, il nous montrait aussi que on était dans un monde plein où il y avait plus de monde qui habitait la Haute-Provence qu'aujourd'hui, hein, les campagnes étaient vraiment très peuplées, qu'il y avait une très forte activité. Et alors, ce qui était très intéressant aussi, il racontait qu'en fait, tous ces paysans, parce qu'on est dans un monde essentiellement de paysans, travaillaient juste ce qu'il fallait. C'est-à-dire, en fait, ils travaillaient pour payer leurs impôts, hein, payer le Seigneur, pour vivre. Mais quand ils avaient atteint cet objectif-là, finalement, pourquoi travailler plus? C'était vraiment intéressant hein, d'évoquer ça. Après, il raconte aussi, puisqu'on ne peut pas échapper au phénomène des transhumances hein, en Haute-Provence, il raconte aussi que se met en place, et on le voit à travers les transhumances, mais on le voit aussi dans les campagnes, hein, à partir du 15e et du 16e siècle, se met en place en fait une économie pré-capitaliste, hein, puisqu'on ne peut pas encore parler de capitalisme, en fait avec des sociétés, hein, vraiment, qui organisent donc ces transhumances depuis la Basse-Provence jusqu'à la Haute-Provence. Avec des milliers de bêtes, à partir, alors, on a un très beau document qui concerne Saint-Paul, donc aujourd'hui Saint-Paul-sur-Ubaye, qui concerne donc un contentieux entre les éleveurs locaux et les éleveurs et les conducteurs de troupeaux de la Basse-Provence, hein, à propos justement de l'usage des montagnes pastorales, qui date donc, alors je ne sais plus la date, c'est 1293. Je crois que c'est vraiment fin du XIIIe, mais donc il montre ce phénomène, hein, pour le coup on le voit apparaître, mais que lui, cet historien, dit qu'en fait ce phénomène avait commencé quelques décennies plus tôt, sans doute vers 1250, hein, peut-être même avant, et dans d'autres, dans les Alpes du Nord, il le voyait déjà dès le début du XIIIe siècle, hein, donc dès les années 1200. Voilà, donc vous voyez, il y avait tous ces éléments-là, et donc évidemment, cette mise en place de ces grandes transhumances, évidemment, vont modifier les conditions d'exploitation, vont modifier les conditions économiques, etc. Vous voyez, donc, ben voilà, il y avait tous ces... On voyait, en fait, se mettre en place quelque chose qui allait transformer les campagnes. Voilà. Donc ça, c'était pour la semaine dernière, voilà, donc hein, pour dire vraiment ne pas hésiter à venir à nos conférences, ne pas hésiter aussi quand on veut venir à réserver, parce qu'on a beaucoup de monde, et on limite désormais à 75 personnes pour le public, pour des questions de sécurité. Donc il faut vraiment réserver, sinon on a de fortes chances de ne pas pouvoir assister à la conférence. Voilà. On en a une bientôt, là, donc jeudi prochain.
Ce soir.
Ce soir. Ah ce oui, soir. On est jeudi, c'est vrai. Donc ce soir. Donc avec...
Donc le 16
voilà,
octobre.
Voilà, donc avec madame... alors je ne sais pas si on dit Bansi, qui est une historienne, voilà, qui va parler, elle. Alors cette fois-ci, on sort du Moyen-Âge. On n'est pas dans l'histoire contemporaine, on est dans la période intermédiaire qu'on appelle l'histoire moderne, hein, voilà, qui sera consacrée aux sépultures de la noblesse provençale, hein, pour rappeler l'empreinte territoriale et la marque mémorielle, donc 16e, 18e siècle. Hein, voilà. Alors là, c'est le même contexte, hein, c'est quelqu'un qui vient travailler, qui vient faire des recherches aux archives départementales, qui se penche donc sur des sujets, parce que franchement, jamais ce sujet avait été abordé concernant la Haute-Provence, hein, et la noblesse provençale en général, hein, enfin, parce que ça concerne plutôt la Provence de manière générale. Voilà, donc voilà, on a vraiment des sujets tout à fait nouveaux, et on est très heureux de pouvoir les proposer au public. Alors, je ne vais pas vous faire le résumé, hein, mais c'est dire que sous l'Ancien Régime, donc 16e, 18e siècle, un individus qui a un sens relatif, hein, dire déjà individu, c'est déjà très particulier parce qu'on ne parle pas vraiment d'individu, on va dire un sujet, hein, puisqu'on est dans une monarchie, hein, c'est quelqu'un donc qui appartient à un groupe social, hein, évidemment, noblesse, clergé, tiers d'État, puis après il peut être dans le tiers d'État, il peut être un bourgeois, il peut être, etc. Vous voyez, donc il peut faire partie d'un corps de métier, etc. Mais c'est aussi l'appartenance à une famille. Hein, la famille, c'est très important, en particulier dans les lignages nobles, hein, où on a l'obligation au XVIIe, au XVIIIe siècle de faire sa généalogie pour montrer que sa noblesse date. Et on a vraiment cette idée de transmission et d'un patrimoine, mais d'un patrimoine évidemment économique, mais aussi d'un patrimoine symbolique qui donne sa place. En fait, on est l'héritier de quelque chose. Quoi, voilà. Et donc, c'est ce que je pense qu'elle va évoquer à travers justement l'étude des sépultures, chose que moi je n'ai jamais vu étudier dans le département. Voilà, je vais laisser peut-être un peu maintenant la parole, parce qu'autrement je vais la monopoliser jusqu'à 10h, donc à Marie Brunel, donc, qui est donc la directrice adjointe des archives départementales depuis le 1er février de cette année.
Merci beaucoup, Monsieur Labadie. Donc, oui, je suis Marie Brunel Marchetti, directrice adjointe des archives départementales des Alpes de Haute-Provence, depuis une période très récente. Et je m'occupe, parmi toutes mes fonctions qui sont multiples, variées et toutes plus passionnantes les unes que les autres, entre autres de la prochaine exposition qui sera inaugurée le jeudi 11 décembre à 15h30, si je ne me trompe pas. Et à laquelle tout le monde sera bien sûr, vous êtes tous conviés, pour découvrir avec nous cette future exposition. Le thème de ce travail que nous allons vous présenter est « Les archives entrent en scène ». Alors, quand j'ai pris mon poste et que je suis arrivée, on m'a dit « bon, la prochaine exposition, ce sera sur les archives ». Ouf, c'est un peu une gageure parce que les archives s'exposent assez difficilement. Voilà, on parle souvent de documentation administrative, qui dans l'imaginaire collectif a un peu une image un peu triste, rébarbative et poussiéreuse. Et justement, notre objectif, c'est vraiment de montrer à tout un chacun que on est aussi très loin de ce cliché et de montrer que les archives peuvent être aussi un petit peu glamour. Voilà, donc on a une approche un peu originale pour cette exposition qui est en fait de faire un parallèle avec les métiers du cinéma et du spectacle vivant. Voilà, pour montrer comment les archives sont nos superstars et que nous sommes en fait les petites mains de l'ombre qui préparons, qui conservons, qui mettons aussi à disposition, mais vraiment qui bichonnons ces archives pour qu'elles puissent donner tout leur potentiel. Alors soit dans la recherche, soit justement dans des expositions, dans des actions éducatives. Et c'est vraiment l'objectif de montrer à la fois le potentiel des archives et aussi de faire découvrir au grand public nos métiers qui sont, il faut le dire, assez peu connus. On est parti dans cet objectif-là, présenter nos métiers qui sont très variés, et présenter aussi la richesse des fonds des archives départementales. Alors pour ça, on a fait une sélection qui est forcément subjective, mais justement la subjectivité des archivistes a aussi son intérêt. Voilà pourquoi Jean-Christophe Labadie, notre directeur, choisit une petite note, un document qui est à l'air presque insignifiant, mais qui en fait a décidé de destin de famille pendant la Seconde Guerre mondiale. Voilà comment on arrive, on va aussi présenter nos superstars. Voilà le rouleau de Saint-Paul dont Monsieur Labadie a parlé tout à l'heure, qui est un des documents phares de nos collections. Et puis, on va essayer aussi de vous présenter toutes les richesses et la diversité. On va parler bien sûr du cadastre, on va parler de l'état civil, de la généalogie, voilà, de tous ces sujets que le grand public connaît, mais parfois pas suffisamment profondément, ou bien qui voudrait commencer une recherche, mais sans trop savoir comment, sans trop savoir pourquoi. Voilà, on va essayer de présenter au mieux nos métiers et aussi les fonds que nous conservons.
Donc ça, ce sera le jeudi 11 décembre à 18h.
17h30.
Ouais, okay.
Pour l'inauguration, et l'exposition va durer 2 ans. Donc vous aurez le temps de venir la découvrir à plusieurs reprises. On va aussi présenter successivement toute une sélection de documents. Voilà, pour varier un petit peu les plaisirs, et puis organiser aussi autour de cette exposition des conférences, des ateliers, des rencontres, de manière à présenter au maximum de monde l'univers passionnant des archives.
Voilà. Ça me rappelle en fait un ouvrage qui avait été écrit, un petit ouvrage qui avait été écrit par un de nos collègues, donc directeur des archives départementales de la Côte d'Or, qui est publié par les éditions universitaires de Dijon, et qui lui comparait donc l'archiviste à un ver luisant. Alors pourquoi un ver luisant? C'est ce que vient exactement d'exposer Marie Brunel. Ver luisant parce que ver parce que justement le caractère modeste, effacé, un peu souterrain, vous voyez, du travail de l'archiviste, mais luisant parce que met de la lumière, justement met en lumière certains documents qui révèlent justement tout leur intérêt, même si ce sont des documents modestes. On a des documents donc comme le fameux rouleau de Saint-Paul, hein, qui est un document qui fait plusieurs mètres de long, qui est un parchemin, enfin un ensemble de parchemins cousus ensemble, et qui évoque justement ce procès en fait, hein, entre éleveurs locaux et éleveurs de la Basse-Provence. Il y en a aussi donc cette petite note, hein, effectivement, quelque chose à très, qui est même une note écrite sur un brouillon, enfin sur un papier de récupération, puisqu'on est pendant la Deuxième Guerre mondiale. On a évidemment une pénurie de papier, donc on réutilise beaucoup. Donc une note qui fait c'est un format A5, hein, donc c'est même pas un format A4, hein, c'est tout petit, et qui effectivement raconte en fait, un épisode tragique, hein, de l'histoire, en l'occurrence donc la déportation et l'extermination des Juifs, hein, donc après les arrestations d'août 1942. Mais c'est aussi des documents beaucoup plus joyeux. Hein, il n'y a pas que hein, les archives. C'est alors c'est vrai qu'on dit souvent que dans les archives, il y a plutôt des documents qui ont trait à des violences,
des drames,
etc. Mais ça, c'est vrai pour les archives judiciaires, mais ce n'est pas vrai pour les archives administratives. Par exemple, hein, où on a la vie courante, la vie ordinaire, on a même quelquefois des beaux succès. Enfin, voilà. Donc on va présenter aussi donc des documents de différentes sortes, avec une approche un peu particulière, puisque à ces documents sont associés des textes qui sont écrits par les agents des archives, par certains agents des archives, voilà, qui se sont investis. Donc ce sont eux qui ont choisi les documents. Il n'y a pas de documents qui ont été imposés, qui ont donc écrit leur texte, relu évidemment attentivement par Marie Brunel, hein, pour qu'il y ait une homogénéité, pour qu'il y ait, voilà, et puis pour qu'on respecte ce principe justement de la mise en scène. Hein, voilà, donc vous avez différentes formes dans l'écriture, hein, même qui ont trait justement au domaine du spectacle, au domaine du cinéma. Voilà. Et puis après, il y a un petit jeu que je vais laisser expliquer pour un peu pimenter cette affaire.
Ah oui, c'est vrai, j'ai oublié de mentionner pourtant ce point fondamental dans la création de cette exposition. C'est que oui, on va proposer au public différents jeux, mais il y en a un qui est quand même absolument majeur. C'est que, comme les archivistes ont beaucoup d'humour et une grande culture, on a caché dans les différents textes des répliques de cinéma, des répliques de grands films. Bon, alors certains un peu plus bon que les cinéphiles repéreront plus facilement, mais aussi des films très grand public, connus de tous. Et donc on va vous proposer un jeu qui sera de retrouver dans les différents panneaux d'exposition ces fameuses répliques de films, et puis on organisera un petit concours avec les meilleures réponses.
Voilà, donc c'est important parce que c'est assez drôle à faire en fait, hein, puisqu'il faut coller dans un texte, voilà, et c'est ça sera pas facile à repérer, hein, franchement, quelquefois c'est assez évident, hein, parce que il y a une rupture dans le style, on va dire, hein, mais et puis on se demande ce que ça fait là, des fois, enfin c'est curieux, mais quelquefois moi qui ai relu aussi tous les textes, franchement ça sera pas facile à retrouver, et encore repérer. On peut repérer évidemment la citation. Après, faut trouver le film, ce qui n'est pas évident. Même si effectivement certains films sont des films grand public, d'autres au contraire sont plutôt des films de cinéphiles. Donc ça sera pas, il y aura tous les niveaux. Voilà, hein, ça va être voilà. Donc c'est un des jeux qui sera proposé donc pour un peu pimenter cette affaire. Mais il y aura d'autres choses. Hein, il y aura d'autres
propositions. Oui, il y a aussi des jeux pour les enfants, voilà. Des jeux pour les familles. Voilà, de manière à guider aussi un peu la lecture, et puis comment dire, les archives, souvent on dit que ça se regarde, mais là justement on va pouvoir avoir l'occasion de toucher aussi des documents, alors ou des chutes de documents, des documents qu'on va jeter, mais justement pour travailler aussi sur les textures, parce que en fonction des matériaux, la sensation aussi du lecteur en salle de lecture peut être complètement différente. Et donc voilà, pour une fois, on va vraiment pouvoir toucher, manipuler, enfin le grand public va pouvoir à volonté pouvoir toucher des documents.
Voilà, donc en l'occurrence des papiers de papier chiffon, hein, très bonne qualité.
Du parchemin.
Du papier japon. Voilà, papier japon. En parchemin, on s'imagine pas. Hein, en fait, le parchemin, c'est une peau de bête quand même. Hein, c'est quand même. Hein, on oublie que c'est en fait une origine animale. Et c'est vrai que quand on fait les visites, on organise souvent des visites. On en a organisé deux la semaine dernière puisqu'on a eu deux formations. L'une avec les agents hospitaliers et l'autre avec des agents des collectivités territoriales et en l'occurrence des communes. Quand on leur fait toucher les parchemins, c'est une sensation très particulière en fait. Hein. Personne n'a l'habitude. Vous voyez, en plus c'est pas du parchemin d'aujourd'hui parce qu'on trouve des parchemins aujourd'hui, on peut trouver. Mais là, c'est vraiment des parchemins qui ont plusieurs siècles, hein, qui ont jauni, qui sont un peu raides parce qu'ils ont ils ont un peu séché quand même. Hein, voilà.
Donc, ils n'ont pas la souplesse du cuir telle qu'on la connaît, voilà. Mais ils n'ont pas non plus la rigidité du carton. C'est une espèce d'entre-deux c'est très spécifique.
Voilà, c'est très particulier. Donc voilà. Ça sera l'occasion, chose que on ne propose jamais évidemment aux visiteurs parce que c'est un tabou hein, de toucher. Alors évidemment, certains documents. Hein, on ne donnera pas les documents les plus précieux. Ça sera des chutes, des documents qui ont aussi, par exemple, été des couvrures qui ont été récupérées par les notaires pour en faire des couvertures. Hein, on appelle ça des couvrures de registre et qui ont été démontées suite à des restaurations. Voilà, il y aura plusieurs. Le papier, en l'occurrence, ce sera des placards de l'époque révolutionnaire hein, qu'on a en triple, en quadruple, en 500 exemplaires, vous voyez, donc on n'est pas avare de les proposer au public. Voilà, donc ça sera tous ces petits documents, tout ça qui seront proposés. Voilà, c'est vraiment l'idée, c'est d'aller dans le monde des archives, de voir ce que c'est, de voir comment on travaille, voir les types de documents, on appelle ça les typologies documentaires, donc voir un peu qu'est-ce qu'on peut retrouver, rencontrer, car souvent aussi, quand on fait les visites, les visiteurs n'imaginent pas tout ce qu'on conserve. En fait, je sais même pas d'ailleurs, il faudrait faire un jour un travail sur les représentations de nos visiteurs, quand on leur dit qu'on conserve absolument tout, les producteurs... Hein, pas toutes les archives, hein, puisqu'on en détruit beaucoup, mais tous les producteurs d'archives sont représentés dans notre service, sauf le domaine militaire, sauf le domaine diplomatique, hein, qui ont leur propre service d'archives. Mais tout le reste est chez nous. Hein, ça va du tribunal, de la préfecture, d'une collectivité territoriale, enfin, etc. Vous voyez, donc, même d'une association hein, qui a une délégation de service public. Vous voyez, il y a beaucoup, beaucoup d'archives et les personnes sont toujours très étonnées quand ils visitent les archives de cette diversité et de cette masse, hein, 11 kilomètres. Voilà. Leur deuxième étonnement, c'est le service lui-même, en fait. C'est-à-dire, en fait, de découvrir qu'on est dans des lieux très propres, très sains, où on fait très attention aux conditions climatiques. Hein, ils ont, je pense, c'est Harry Potter, quoi, vous voyez. Les
vieilles étagères en bois,
voilà. poussiéreux,
voilà.
Les araignées, les toiles d'araignée.
Il n'y a pas de ça chez vous, alors.
C'est Halloween, vous voyez, un peu. Hein, voilà,
oui, il y a une ambiance comme
ça. Sauf qu'on n'est pas habillé comme ça quand même. Hein, voilà, on fait comme très attention. Voilà, mais je pense qu'ils ont cette idée-là, hein, vraiment. Mmh.
Mais c'est vrai que c'est aussi le justement des clichés qu'on a sur les archives. Alors un cliché qui parfois est réel, mais c'est ce qu'on essaye aussi de montrer dans l'exposition, c'est que ça reste quand même l'exception. C'est les archives de l'extrême, c'est vraiment celles qui sont moisies, pleines de toiles d'araignées. Et alors il est vrai que ça arrive, mais heureusement de nos jours, ça reste quand même particulièrement exceptionnel. Et quand on a des versements de documents, eh bien ils sont propres. Ils sont en bon état, ils sont bien conditionnés, il y a quand même une attention, heureusement, de l'administration sur la production documentaire.
Voilà, voilà donc je pense que voilà, donc ça sera ces deux ans avec des documents qui changeront, puisqu'on ne peut pas laisser pendant deux ans les mêmes documents exposés, hein, à la lumière, pour des questions liées justement à la conservation de ces documents. Et donc le public aura l'occasion ouais, de venir découvrir. Tout type d'archives, de très très beaux documents, documents prestigieux, des documents beaucoup plus humbles, mais qui racontent chacun une histoire, qui présentent un intérêt, et qui rappellent aussi que, et c'est aussi ça, par rapport aux producteurs d'archives, hein, qui pensent toujours que ce qu'ils font, ce qu'ils produisent n'est pas intéressant, vous voyez, quel intérêt de conserver ce que je fais, alors que, en réalité, vous voyez, comme cette petite note, qui, qui aurait dû être détruite, en fait, hein, c'est un brouillon presque, vous voyez, elle n'aurait pas dû être conservée, ben, finalement, on raconte quelque chose, et je crois que à chaque fois, vous savez, quand on, c'est un principe un peu, quand on est archiviste, on ouvre n'importe quelle boîte, on a toujours des choses à trouver à l'intérieur, quelle qu'elle soit. Que ce soit une boîte du 17e siècle, ou du 19e, ou du 20e, même une boîte très récente, ça raconte toujours quelque chose sur la vie des gens, l'organisation de l'administration, vous voyez, etc. Donc il y a toujours quelque chose à en retirer. Donc, c'est aussi un message pour tous ceux qui produisent des archives, de leur dire ce que vous faites est intéressant. Même si vous n'avez pas cette impression-là, puisque vous êtes dans le quotidien, vous êtes dans l'ordinaire, mais c'est intéressant et ça présentera un intérêt pour l'historien ou pour le simple citoyen qui s'intéresse tout simplement à l'histoire, hein, pas forcément un professionnel, dans 50, 60, 100 ans, un siècle, etc. Oui, donc voilà. Donc c'est aussi rappeler tout ça. Voilà.
Et rappeler que les archives sont accessibles au public, vraiment accessibles. En salle de lecture, elles sont ouvertes à tout le monde et tout le monde peut venir les consulter.
On va faire la pause musicale à la demande de Jean-Christophe Labadie qui nous a choisi un titre, Un grand amour, une chanson issue de l'album de Daniel Gérard. On l'écoute.
Grand amour, c'est de ne plus avoir 20 ans et d'accepter les rides que donne le temps. C'est un corps nu qu'on reconnaît du bout des mains, comme une rose qui renaîtrait 1000 matins. Un bateau qui s'en va seul dessus la mer, chercher au loin le port tranquille de son hiver. Un grand amour, c'est une église qu'il faut bâtir pour y cacher les évangiles du souvenir. L'amour, c'est de pleurer quand on est seul, en condamnant la porte froide de l'orgueil. C'est d'oublier les bras tenus dans d'autres bras. C'est revenir et savoir faire le premier pas. Un grand amour, c'est la souffrance que l'on partage, et l'espérance de chaque instant sur un visage. C'est de savoir qu'un lendemain peut venir, en restant là pour le meilleur et jusqu'au pire.
Voilà, on revient avec Histoire d'archives.
Voilà, donc on reprend. Donc on a, après votre musique était très calme, hein, par rapport à la précédente des Sparks, hein, puisque c'était. Je prépare d'ailleurs quelque chose sur les Sparks, hein, comme tu me l'as demandé. Hein, donc un jour on fera une spéciale Sparks. Voilà. Voilà. Ah, j'ai commencé un peu à travailler là-dessus. Voilà, donc on revient sur notre programme, notre prochain, donc nos prochaines. prochaine rencontre hein, avec le public. Voilà, donc on a évoqué la conférence de ce soir, hein, qui est, je pense, on a déjà beaucoup de réservations, j'imagine. Je vais pas regarder les chiffres, mais c'est voilà, mais et je pense qu'il y a pas de souci pour ça. Parce que c'est vraiment des sujets qui attirent, hein, qui par leur nouveauté, par le fait aussi qu'ils sont prononcés par des gens qui sont des jeunes chercheurs, qui ont aussi un intérêt pour le public parce que ça montre aussi ce que c'est que la recherche historique aujourd'hui, quoi. Voilà, hein, puisque on est vite décalé, hein, on est vite, il y a quand même aussi en histoire des écoles, hein, d'une certaine manière, et donc c'est l'occasion aussi de voir ce qui intéresse aujourd'hui les historiens, les jeunes historiens, donc les grands historiens de demain, en fait, hein, voilà. Prochaine conférence après celle-ci, donc cette fois-ci, ça ne sera pas aux archives départementales. Ça sera donc à la Javi, à l'église Saint-Jean-Baptiste, le dimanche 2 novembre, à l'occasion de la fête de la poire Sarteau de la Javi, hein, qui est donc le dimanche, à 10h. C'est une conférence sur les fruits et les arbres fruitiers dans les Basses-Alpes. Alors c'est une conférence historique. Hein, on n'est pas dans la géographie actuelle. Hein, c'est moi qui la prononce, donc du coup je peux en parler. Hein, je peux vous faire la conférence si vous voulez d'ailleurs. Hein, voilà. Donc c'est une conférence donc qui s'intéresse en gros. Alors c'est un peu compliqué parce que le sujet c'est trouver des archives qui évoquent ces questions-là. Alors on a la chance d'avoir une belle statistique, un beau rapport qui a été écrit dans les débuts des années 30 suite à une grande campagne réalisée en 1929 pour faire le point, justement, un point sur toutes les cultures du département, qui d'ailleurs n'est pas spécifique, hein, cette campagne n'est pas spécifique au département, ça s'est fait assez ailleurs, hein, c'est une campagne nationale, et donc où les services agricoles ont fait un recensement de toutes les productions, y compris donc des fruits, en comptant même les arbres. C'est-à-dire qu'on a le nombre exact, alors il faut relativiser hein, évidemment, il y a des arbres sans doute cachés, hein, et les décomptes sont pas forcément tout à fait justes, enfin c'est absolument extraordinaire. Vous avez le décompte des arbres, par exemple, pour les poires, puisque on est à la Javi, on va parler de la poire Sarteau. Vous avez le décompte exact des arbres qui sont cultivés en verger et les arbres épars. Vous voyez, donc vous avez les deux, et vous avez les productions qui sont liées, les variétés qui sont cultivées, c'est fait dans le département, on vous donne les principaux producteurs, donc en l'occurrence sur la Javi, évidemment c'est très important, la production de pommes et de poires, mais vous avez aussi pour d'autres lieux, moi par exemple j'ai découvert, ce que j'ignorais, que sur la route qui aujourd'hui nous conduit de Digne au Mai, alors on voit bien au Mai, on voit les pommiers, hein, etc., quand on arrive sur les Mai, mais dans toute la zone précédente, on avait des vergers, d'importants vergers, où il y avait de l'abricot. Voilà. Hein, c'est chose que j'ignorais, vous voyez, enfin voilà, pêche, c'était la pêche, je crois, pêche et abricot. Voilà, donc, et qui était une zone intensive, voilà, hein, qui a disparu aujourd'hui en raison de l'urbanisation, des équipements, etc. Enfin voilà, vous avez, on a tous ces éléments qui permettent effectivement de dresser un portrait, on va dire, arboricole, des Alpes de Haute-Provence, enfin des Basses-Alpes à l'époque, aussi bien dans les aspects techniques que dans les aspects de production, etc. On a aussi évidemment pour les poires les coûts, parce que la valeur hein, que ça représente, vous voyez, etc. Voilà, ce qui est commercialisé, ce qui n'est pas commercialisé, ce qui est autoconsommé, hein, beaucoup d'autoconsommation, etc. Vous voyez, vous avez tous ces éléments, tous ces critères qui permettent de faire un beau portrait. Alors la question, qu'est-ce qu'on montre ? Je ne peux pas montrer, évidemment, c'est un peu compliqué de montrer ce document qui fait plus de 100 pages. C'est que du texte, hein, il n'y a aucune image. C'est dans un langage administratif. Vous voyez, c'est pas
un peu aride.
C'est un peu aride, voilà. C'est un peu, pour reprendre la métaphore, voilà, c'est un peu aride. C'est un peu sec et aride, et c'est pas du Lamartine, quoi, voilà. Pour la chose, on n'a pas le talent de Lamartine pour l'écriture, voilà. Mais voilà. Donc, J'ai eu la chance, en fait, de retrouver, vous savez, dans les vieux ouvrages publiés au XVIIIe siècle, vous avez des dessins, en fait, qui sont magnifiques, hein, des dessins des fruits, mais pas seulement, hein, des fruits, mais aussi des fleurs, hein, qui amènent à ces fruits, etc. Voilà, donc du coup, ça sera illustré beaucoup à partir de ces merveilleuses planches de dessins du XVIIIe. Et j'avais déjà repéré, mais ça c'est, vous savez, c'est l'avantage d'être depuis longtemps dans le service, j'avais repéré des dessins liés par exemple à de l'endiguement, vous voyez, une chose toute simple, hein, l'endiguement dans la vallée de la Durance, qui amène à des dessins 19e sur lesquels on voit les bergers. Et on voit exactement, parce que évidemment, quand on va endiguer, on va détruire des bergers, donc on va amener, on va donc être obligé de payer des indemnités, et ces indemnités, elles dépendent des arbres qui sont là, et non seulement des arbres qui sont là, mais de leur âge. Hein, voilà. Et donc vous avez des dessins qui vous montrent exactement où sont positionnés les arbres, et vous avez, et c'est là que vous voyez qu'il y a un mélange extraordinaire entre des pommiers, des poiriers, des pêchers, etc., avec leur dessin, leur taille, leur âge, et leur circonférence, en fait. C'est pas la taille, hein, c'est pas la hauteur, mais c'est leur circonférence. Vous avez ces dessins-là qui sont magnifiques, évidemment, et donc ils seront aussi présentés en fin de conférence pour un peu élargir le propos et lui montrer une dimension un peu spatiale, hein, ce que ne montre pas, évidemment, ce fameux rapport à partir de l'enquête de 1929.
Oui, et puis justement, on a la chance d'avoir une diversité dans les archives de typologie documentaire, voilà, entre justement ce rapport bon, qui n'est pas du Lamartine, qui est un peu écrit dans un style un petit peu rude, et puis à côté de ça, ces fameux plans aquarellés qui étaient souvent réalisés par des services techniques au XIXe siècle, et en fait qui sont quasiment des œuvres d'art d'une précision extrême et qui ont véritablement des qualité artistique notable.
Oui, c'est vraiment c'est un très très beau document. Donc il y en aura un qui montre plusieurs vergers, hein, donc où j'ai fait les arrondissements pour qu'on voit bien les arbres. Ils sont dessinés, mais vraiment tels qu'ils sont. Enfin, vous voyez, c'est vraiment c'est extraordinaire, hein, vraiment. Vous avez évidemment c'est à l'aquarelle. Hein, c'est vraiment une œuvre d'art, hein, qui de dessinateurs souvent de l'équipement en fait, hein, puisque c'était eux qui étaient capables de le faire en fait. Puis de toute façon, c'est un document d'équipement en fait, hein, en réalité. Voilà. Donc alors. Je reviens sur la Javie, puisque c'est... alors, il y aura Drex dimanche, hein, il ne faut pas oublier...
Voilà, il ne faut pas les confondre, voilà. Puisque, oui, ouais. À Drex, c'est le 19 octobre, voilà. Et à la Javie,
c'est le 2
novembre. C'est le 2 novembre, voilà.
Et dimanche. L'une, c'est la poire Sarto blanche, et l'autre, c'est la poire Sarto rouge.
Voilà, oui.
Voilà, hein, donc, voilà. Hein, voilà. Mais chacune ont leur intérêt, hein, oui. Voilà, on va être consensuel. Voilà, voilà. Donc, et alors, pour dire que, évidemment, la Javie, la poire a une grande importance, puisque... dans cette enquête, il est dit qu'il y a plus de 100 000 arbres dans le département, hein, dont 5 000 seulement à la Javie, vous voyez, donc 5 000. Et j'avais repris une citation de la grande encyclopédie, enfin l'encyclopédie Diderot d'Alembert du XVIIIe siècle, hein, qui est évidemment la somme, hein, de toutes les connaissances, etc., qui disait que le poirier, hein, est le plus estimé des arbres fruitiers à pépins. Voilà. On considère qu'en fait la poire, à l'époque, c'est le fruit le meilleur qui soit. Voilà. Ce que je pense, un avis que je partage. Hein, voilà, donc je trouve que la poire, après c'est très fragile, hein, etc. Hein, c'est voilà, mais c'est vraiment. Alors que quand vous regardez dans cette enquête, la pomme, il y a beaucoup de pommiers, mais ça rapporte peu, quoi. Hein, c'est des sommes dérisoires par rapport aux poires ou par rapport à d'autres fruits, hein, évidemment, qui sont plus rares. Voilà. Donc ça, c'est pour le 2 novembre à la Javie à 10h. Après, on revient avec une jeune historienne, Claire Allain ou Claire Allain, qui est une historienne qu'on connaît, puisqu'elle est maintenant, elle vient depuis quelques années aux archives départementales, qui travaille sur essentiellement les archives judiciaires de la fin du Moyen-Âge, qui va donc là présenter une conférence autour de donc ce qui est nommé comme ça, une ville et ses privilèges, Seine à la fin du Moyen-Âge. Voilà. Et donc, alors Seine, c'est une ville très importante, hein, c'est une cité très importante. Ce sont les archives quasiment les plus anciennes conservées dans le département. Hein, donc, oui, donc vraiment, il y a une histoire qui est bien connue. Et donc, elle va rappeler ce que sont coutumes et privilèges dans cette tour au Moyen-Âge. Hein, donc, vous voyez, donc là, on aura évidemment encore beaucoup de monde qui se présentera à cette conférence. Et donc, elle va partir à partir du livre des privilèges de la ville. Alors, il y a plusieurs copies, c'est un peu compliqué, mais ça l'expliquera, hein, puisqu'il y a plusieurs... c'est un document qui est très important, évidemment, pour la commune, hein, pour la communauté de Seine. Et donc, va évoquer toutes ces questions... et montrer qu'en fait aussi la complexité de cette époque. Il ne faut pas penser que autrefois les choses étaient plus simples qu'aujourd'hui. Hein, les choses étaient extraordinairement complexes comme aujourd'hui. Voilà. On est en novembre, hein, et donc en novembre, il y a évidemment une fête nationale qui est le 11 novembre, hein, qui est liée donc à l'armistice de la Grande Guerre, hein, de la guerre 14-18. Donc, on a une conférence là qui est proposée donc avec, c'est une conférence à double voix avec Alain Robert, hein, que je prononcerai avec Alain Robert au mai. Donc c'est au cinéma, c'est donc le lundi 10 novembre. À 17h30. Alors c'est Alain Robert qui est le maître d'œuvre de cette affaire. C'est quelqu'un qui est bien connu parce qu'il fait un érudit, qui travaille beaucoup, qui m'a beaucoup aidé quand j'ai fait mon ouvrage sur les monuments aux morts, parce qu'il m'a donné beaucoup d'informations, parce qu'il a aussi lui-même de son côté fait un recensement exhaustif. Et pour la petite histoire d'ailleurs, il m'en a trouvé un que je n'avais pas vu, que j'ai loupé, dans le nord du département, qu'il faudra rajouter si on fait une réédition de cet ouvrage. Voilà, donc, en l'occurrence, on ne peut pas s'intéresser à tous les monuments aux morts du département. On va s'intéresser à 5 monuments qui ont été sculptés par un sculpteur qui s'appelle Alfred Salvignol. Ce sont parmi les plus beaux monuments du département, qui présente en fait des statues en fait, des personnes. Donc en l'occurrence, ça concerne aussi les mets, puisque celui des mets a été fait par Salvignol, mais ça concerne aussi le monument de Château Arnoux, le monument pacifiste de Château Arnoux, le monument de Maliget, le monument de l'Urse et le Permis. Voilà, de tous les monuments, ces 5 monuments. Sachant qu'il en a fait aussi dans d'autres départements. C'est un sculpteur qui était spécialisé dans cette production, qui est évidemment a beaucoup d'ampleur, prend beaucoup d'ampleur dans les années 20, puisque toutes les communes, ou presque, souhaitent avoir leur monument aux morts. Voilà. Donc on va s'intéresser vraiment à cet auteur qui a... moi, je n'ai pas travaillé sur le Salvignol, moi j'ai travaillé sur les monuments. Donc on va se partager les monuments. Mais c'est le travail sur l'auteur lui-même, a été mené par Alain Robert, qui a réussi à retracer son parcours de vie. Il a aussi peint, Alfred Salvignol, et il a fini miséreux à Nice. Une vie qui s'est vraiment terminée. On a eu beaucoup de mal d'ailleurs il a eu beaucoup de mal à trouver sa date de décès. Vous voyez, c'est quelqu'un qui est mis en lumière à une certaine époque, et puis qui, comme certains artistes, disparaît un peu des radars et finit misérablement sa vie et termine dans une fosse commune au cimetière de Nice, si ma mémoire est bonne. Vous voyez, donc Alain Robert va raconter tout ça. J'en ferai une qui n'est pas dans le programme, mais qui a été rajoutée depuis. Vous savez qu'il y a des conférences qui se rajoutent, qui sera donc le 12 novembre à 18h à Méolan-Revel. Alors cette conférence, je crois que c'est la Flacière, je pense de mémoire, cette conférence, donc un restaurant en fait, cette conférence s'intéressera donc au 11 novembre, en tant que armistice, fin de la guerre, je rappelle toujours le 11 novembre à 11h, les clairons sonnaient pour dire que la guerre était finie, que le dernier mort de la guerre est un Lozérien, qui décède à 10h55, vous voyez, donc il s'appelle Trébuchon, était un berger de la Lozère, aîné d'une famille de beaucoup d'enfants dont il s'occupait parce que les parents étaient décédés, qui avait fait toute la guerre, hein, qui a été mobilisé en 14, qui a passé toute la guerre, qui était c'est une estafette, hein, donc il amenait les messages et il est mort au dernier moment de la guerre. Et pour éviter, comme tous ceux qui sont morts le 11 novembre, on a antidaté leur mort au 10 novembre, parce qu'évidemment, il y avait un côté un peu absurde. Hein, En fait, il y a eu beaucoup de morts dans cette période parce que les Français ont poussé leur avantage, en fait. Hein. Donc, devant la débandade allemande, ils poussaient leur avantage. Donc, en fait, ils combattaient, quoi, vraiment. Ils n'ont pas attendu le 11 à 11 heures, hein, pour arrêter les combats. Et donc, du coup, voilà. Et ce qui est logique aussi, car la Lozère, en proportion, hein, par rapport à sa population, c'est le département qui a le plus souffert de la guerre, avec 11% de sa population masculine qui a disparu au cours de la guerre. Voilà. Donc, moi, je m'adresserai donc au 11 novembre en tant que fin de la guerre. Donc, j'évoquerai la figure de Trébuchon, puisque voilà. Et aussi donc le 11 novembre comme cérémonie, hein, puisque c'est devenu une fête nationale. Alors, j'expliquerai comment c'est devenu une fête nationale. Comme cérémonie, avec les acteurs principaux qui sont les anciens combattants, et comme le siège de cette cérémonie, le monument mort, en fait. Hein, voilà. Donc on revient, vous voyez, toujours dans cette histoire, sachant qu'aujourd'hui, le 11 novembre, ce n'est plus seulement la célébration, hein, des morts de 14-18, mais de tous les morts pour la France, y compris les plus récents dans les opérations extérieures. Hein, ça concerne tout le monde, voilà. Voilà, donc ça c'est pour la période de novembre. Je crois qu'après, en décembre, on n'a rien prévu.
En décembre, on n'a rien de particulier vu qu'on a la nouvelle exposition qui arrive. Voilà. Et après, les conférences reprendront donc en 2026, ouais, avec une programmation qui est encore en construction, mais on va parler justement de la vie rurale, avec de lectures d'archives, normalement, à la fois une Omé et une Assein. Et puis nous faisons aussi revenir début 2026 Yanis Nassef, qui nous avait proposé une conférence Quand sonne le glas du village, une géographie des villages abandonnés en montagne. Et cette conférence avait eu un succès énorme, on a dû refuser plus de 30 personnes. C'est pour ça qu'on fait revenir monsieur Nassef, afin que tout le monde puisse assister à son intervention.
Voilà, c'est vraiment, vous savez, on avait parlé, hein, je crois, quand je suis venu en juillet, puisque il soutenait sa thèse à ce moment-là, donc il s'est intéressé vraiment aux lieux abandonnés, aux villages abandonnés, alors pas seulement dans le département, mais dans d'autres départements montagnards, en fait, hein, puisque c'est la montagne qui l'intéresse, et il a soutenu sa thèse, hein, avec succès. Normalement, ça va donner lieu à une publication. On devrait avoir, alors la prochaine fois qu'il viendra, il nous amènera des exemplaires, hein, pour que le public puisse les consulter en salle de lecture. Hein. C'est vraiment un travail. Là aussi, vous voyez, c'est un géographe, hein, ce n'est pas un historien. Et donc les géographes n'ont pas la même approche. Hein. Les géographes, ils vont sur le terrain. Vous voyez, ils vont moins dans les archives qu'un historien qui, lui, va pas sur le terrain tellement. C'est un peu, voilà. Mais on a une approche d'un géographe. Alors, il y a une dimension historique, évidemment, hein, mais qui montre bien tous ces phénomènes. Et c'est vrai qu'il en a fait déjà deux, hein, de conférences aux archives départementales, une chaque année, une au début de sa thèse, donc une autre l'année dernière où on a effectivement refusé beaucoup de monde. On avait rempli la salle. Alors, quand je dis on limite à 75... On était plus de 100 personnes dans la salle, hein, et on en a refusé plus de 30. Donc, vous voyez, le succès, après, c'est passionnant. Il est passionnant.
Il est passionnant. Il a une connaissance très, très pointue, justement, du territoire, de son sujet. Il parle extrêmement bien. Donc, si vous avez l'occasion, vraiment, il faudra... Venez assister à sa conférence.
Voilà, c'est vraiment... ça sera la conférence à ne pas louper. Alors, évidemment, notre programme dépendra aussi des élections et des périodes de réserve électorale. Vous savez que pendant les périodes de réserve électorale, on ne peut pas proposer d'action culturelle vers l'extérieur, hein, donc on sera obligé de se limiter. Enfin, on verra comment ça se passe, hein, mais bon, normalement, on verra, hein, ça c'est, on est comme tout le monde, hein, on attend de voir comment les choses vont se découpiller, voilà. Mais on est déjà en train de travailler là-dessus, en essayant toujours de le proposer. Et puis on reviendra sur l'histoire médiévale quand même en fin d'année, hein, puisque voilà.
Donc, oui, tout à fait. Vu qu'on a une passion des chercheurs et des étudiants, enfin des doctorants pour la période médiévale dans notre département, on va organiser samedi 5 décembre 2026. Vous pouvez dès à présent noter la date dans vos agendas. Donc une journée d'études spécifique sur sur le Moyen-Âge en Haute-Provence. Voilà. Donc ce sera aux archives départementales.
Et on retrouvera donc certains de nos conférenciers qui reviendront sur des sujets donnés, différents évidemment de ceux qui ont été abordés lors de conférences pour justement évoquer cette question-là. Vous voyez, c'est vraiment c'est une chose qu'on n'aurait pas pu imaginer il y a quelques années. Vous voyez, une journée sur l'époque médiévale. On en a fait plusieurs, des journées d'études. C'était toujours sur des questions plutôt contemporaines, un peu d'histoire moderne quelquefois, mais on était en général quand même sur des périodes assez proches de la nôtre. Là, c'est aujourd'hui, grâce à tous ces chercheurs, à ces jeunes chercheurs américains, anglais, français.
Bien sûr.
On peut effectivement partir sur un sujet qui je suis sûr, va avoir beaucoup de succès. Là, je ne sais même pas d'ailleurs si on pourra le faire aux archives départementales, compte tenu du nombre. On verra comment des gens s'inscrivent. On essaiera de voir si on ne peut pas éventuellement la faire ailleurs. On avait fait une journée à la salle Abbé Ferraud, qui donne plus de d'espace. Voilà, donc on va réfléchir à tout ça. On a un peu de temps, c'est dans un peu plus d'un an. Mais les choses se décantent assez vite. Et puis nos chercheurs sont quand même très sollicités aussi. Ils ont aussi une vie sociale, une vie... ils ont un travail aussi, certains, donc voilà. Donc on est obligé de tenir tous ces facteurs pour notre programmation. En tout cas, on est très contents, et moi, le public, elle nous le dit souvent, est très satisfait de ce qu'on propose.
On a une diversité au niveau de la programmation, aussi bien en direction des enseignants, du public scolaire, que du grand public, avec à la fois des conférences qui sont accessibles à tous et qui traitent aussi parfois de sujets quand même assez pointus, qui ont lieu à la fois aux archives départementales et puis sur tout le territoire. Voilà, on organise aussi beaucoup de choses dans les différentes villes et villages, de manière à ce que la culture soit accessible à tous. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur. Et puis on a aussi différentes expositions, nos grandes expositions donc qui durent généralement 2 ans, et puis des petites expositions donc qui ponctuent l'année aux archives départementales.
Oui, d'ailleurs, on va rentrer très vite dans le bilan, on va bientôt être dans la rédaction de notre bilan, et on est, je crois, cette année à 35 conférences, vous voyez, donc ce qui est le niveau de l'année dernière, on maintient ce niveau, ce qui n'est pas évident, parce que faut se renouveler à chaque fois, retrouver des thèmes, retrouver aussi des conférenciers, donc voilà, en termes d'exposition. Les lectures d'archives, on n'en a pas cette année, enfin on n'en a plus cette année, mais on en a fait aussi, et on les fait toujours sur le territoire, très rarement aux archives départementales. Voilà, les conférences, en réalité, plus de la moitié sont faites à l'extérieur des archives départementales. Donc ça veut dire qu'on touche aussi, pas seulement un public dinois, mais on touche aussi un public Montagnac, Riez, etc. Vous voyez, Méolan-Revel bientôt, on touche aussi un public qui ne viendrait pas aux archives départementales forcément, vous voyez, donc voilà, donc il y a tout ça, fait qu'on participe aussi, je crois, à la vie locale. On se plaint sans arrêt, vous savez, du manque d'activité, etc. Ben voilà, on amène notre petite pierre, comme les autres, à tout ça, donc dans un espace qui est donc effectivement très complexe. Les Alpes de Provence, c'est plusieurs régions agglomérées, avec des difficultés évidemment de circulation, ce qui n'est pas simple. Mais on y arrive. Et on accueille aussi, et on va terminer là-dessus, parce que je crois qu'on arrive à la fin, on accueille aussi des expositions, parce qu'on a accueilli récemment une exposition sur Manuel, qui a été montée par la médiathèque et le musée de la vallée de Barcelonnette, vous voyez, donc voilà, on fait des échanges, voilà, donc on est toujours aussi dans ce souci, voilà. On a, je crois, fait un bon panorama de nos activités, passées et futures. Et on souhaite que, évidemment, le public soit au rendez-vous de nos propositions, de nos rencontres. Voilà.
Merci Jean-Christophe Labadie et merci donc Marie Brunel Marchetti pour votre venue première fois dans notre studio et j'espère qu'on vous reverra souvent. Et puis donc cette émission sera en ligne sur le site de Fréquence Mistral. Et voilà, on retrouvera toutes vos propositions de conférences et on les retrouve également sur le site des archives départementales en détail. Merci beaucoup et puis à la foire Sarthe certainement.
Oui, bien sûr.
Premier rendez-vous à la fête de la foire Sarthe. Au revoir.
Au revoir à tous, merci. Au revoir. We'll be right back.